Il est 11h30, Infomag, Jean-François Bodin.
Coup de théâtre au Congrès, Velma Falaeo de l'Éveil océanien a été élue présidente du Congrès au deuxième tour de scrutin. Elle a obtenu 28 voix contre 26 au président sortant Roque Mitan. 4 jours pour se lécher les babines, le salon Saveurs et Traditions s'est ouvert à Nouville et il met la gastronomie à l'honneur. En métropole, Emmanuel Macron poursuit ses consultations pour Matignon, aucune fumée blanche n'est en vue. Les mots très forts de la veuve du gendarme tué lors d'un contrôle routier, elle repose la question de ce que certains appellent l'idéologie anti-prison. 4000 athlètes en e-sport ont défilé sur les Champs-Élysées. Les Jeux paralympiques sont lancés pour 15 jours. Et puis en football, Lille décroche sa place en Ligue des Champions et rejoint Paris, Monaco et Brest dans la compétition européenne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La SIC est en grande difficulté, mais qu'en est-il des autres bailleurs sociaux? Quelle est leur situation et quels sont leurs défis? Ce sera le thème des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie des trois directeurs généraux des bailleurs sociaux, Benoît Naturel pour la SIC, Christelle Inizan pour le FSH et Maude Perrano pour la SEM Sud Habitat. Des Jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal. C'est donc un coup de théâtre qui s'est joué ce matin au Congrès, dont les élus sont convoqués comme chaque année pour procéder au renouvellement des instances. C'est d'abord le poste de président qui était proposé aux voix des conseillers. Dès notre édition d'hier soir, nous évoquions un scrutin qui pouvait réserver des surprises. Un scénario qui s'est confirmé ce matin, Gilles Ménage, avec l'élection de Velma Falaeo à la tête de l'institution.
Oui, au cours d'une séance solennelle présidée par le doyen d'âge, Aloïsio Sacco, qui a, dès ses premiers mots, informé l'Assemblée que Veimua Mouliava, membre du gouvernement, avait démissionné de son mandat au sein de l'exécutif et qu'il retrouvait donc de plein droit et sans délai sa place de conseiller dans l'hémicycle en lieu et place de Maria Isabella Saliga Lutovica. Le secrétaire général du Congrès a ensuite rappelé le déroulé de la journée, a commencé bien sûr donc par l'élection du président du Congrès, élection qui déroule à scrutin secret avec passage dans l'isoloir. Comme Radio Rythme Bleu vous l'annonçait dès hier soir et ce matin, 4 candidats se sont déclarés pour ce premier tour. Roque Mitan, le président sortant pour le groupe UCFLNKS et nationaliste, Naya Ouattéou pour le groupe loyaliste, Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble et Velma Falaeo pour l'Éveil océanien. Et si depuis le début de la mandature en 2019, l'élection et la réélection de Roque Mitan étaient devenues de simple formalité, ce premier tour a partiellement dessiné déjà le scénario de la journée. Roque Mitan, avec 26 voix, n'obtient pas la majorité absolue fixée à 28 voix. Naya Ouattéou recueille 19 voix, Philippe Dunoyer 6 voix et Velma Falaeo 3 voix. Il faut donc un second tour, mais Gilles Brial, pour les loyalistes, invoque alors l'article 52 du règlement intérieur et demande une suspension de séance. Une dizaine de minutes plus tard, le scénario envisagé dès ce matin par RRB se confirme. Seules deux candidatures subsistent au second tour, celle de Roque Mitan et celle de Velma Falaeo. Le vote à bulletin secret se déroule dans une ambiance tendue par le suspense. Va-t-on assister à la première élection d'une femme à la présidence du Congrès dans l'histoire du territoire? Il faut pour cela que le report des voix des partisans de la France soit unanime et discipliné. Et c'est ce qui se produit. Velma Falaeo, conseillère d'origine wallisienne au Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 2019, fait l'apparition sur l'échiquier politique calédonien de l'Éveil océanien, est élue présidente de la première institution du territoire avec 28 voix contre 26 à Roque Mitan, qui est donc battue. Dès l'élection acquise sous les applaudissements des élus, des personnalités présentes et du public, Velma Falaeo a pris place dans le fauteuil présidentiel et prononcé son premier discours de présidente du Congrès. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Depuis 2019, avec nos trois voix au sein de cet hémicycle, nous avons porté Roque Mitan dans l'espoir de cette majorité qu'il qualifiait d'océanienne de changer, de réformer et de faire avancer le pays. L'Océanie n'étant pas pour nous une ethnie, mais une façon de vivre, une façon d'être, un état d'esprit et surtout des valeurs qui font écho à celles de la République, liberté, égalité, fraternité, que sont celles du Pacifique, respect, équité et solidarité.
Nous avons donc décidé de reprendre notre place centrale, a dit encore Velma Falaeo, une majorité nous a porté, nous, les faiseurs de rois, comme on nous appelle. C'est un choix historique qui confirme l'existence de la troisième voie, a dit la présidente. Nous acceptons cette responsabilité avec beaucoup de respect, comme nous acceptons cette mission avec humilité. Je présiderai, a-t-elle dit, dans un esprit d'unité océanienne, républicaine et calédonienne. Après ce discours, l'Assemblée a procédé à une suspension de séance au cours de laquelle Velma Falaeo nous a fait part de sa première réaction.
Ce qui est sûr, c'est que l'éveil océanien a voulu retrouver sa place comme en 2019. Suite à la démission de M. Mouliava, nous avons retrouvé notre troisième voie, la voie centrale. Aujourd'hui, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère. Mais ce qui compte, c'est que le consensus s'installe pour que nous puissions travailler ensemble et réformer le pays comme il en a besoin.
Donc, la première femme présidente du Congrès, une émotion et une fierté, dit-elle.
Je suis émue et honorée aussi. C'est un espoir qui est lancé à toutes ces femmes qui sont engagées, que ce soit dans le milieu associatif ou politique. Et je pense que c'est un espoir pour elles. Et comme je l'ai dit dans mon discours, le travail ne ment jamais. Il faut persévérer, continuer. Et pour une femme, tout peut se faire.
Voilà, après cette une élection qui s'inscrit, on l'a dit, dans un contexte évidemment très particulier pour la Calédonie, et nous avons demandé à la présidente du Congrès quelles seraient ses priorités.
Je pense qu'il y a une nécessité de réorganiser l'institution, d'installer une dynamique notamment avec le gouvernement. On l'a bien vu avec cette crise, ça a été quand même assez compliqué. Nous avons réclamé une mission d'information qui a mis du temps à s'installer. Parfois, on se pose des questions sur le travail qui est fait au gouvernement puisqu'il y a un manque de communication. Donc l'important pour nous, c'est de remettre en place un dynamisme entre le Congrès et le gouvernement pour pouvoir notamment faire passer les textes qui sont nécessaires à la relance et à la reconstruction du pays.
Après cette élection, la séance va reprendre dans quelques minutes avec l'élection du bureau de l'Assemblée, qui est cette fois un scrutin de liste. Trois listes ont été déposées pour l'élection des 8 vice-présidents, pour celle des secrétaires, pour celle des questeurs et pour l'élection de la commission permanente. Une liste déposée par le groupe UCFLNK et ses nationalistes conjointement avec le groupe UNI. Une liste déposée par le groupe Les Loyalistes et leur rassemblement et une liste déposée par le groupe Calédonie Ensemble. Selon nos informations, c'est Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès, qui devrait accéder à la première vice-présidence du Congrès, tandis que Philippe Dunoyer, pour Calédonie Ensemble, devrait lui accéder à la présidence de la commission permanente. En direct du Congrès, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu.
Merci Gilles. Cette élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès est donc un revers pour Rocco Amitan, qui invoquait depuis 2019 une majorité océanienne. Et c'est un revers pour l'Union calédonienne. Mais Pierre-Chanel Tutugoro, le chef de groupe UCFLNK et ses nationalistes au Congrès, explique qu'il l'avait vu venir.
C'était un scénario qui était prévu, hein, depuis 2-3 semaines déjà, et confirmé depuis hier avec la démission de Vaimois. Donc il ne pouvait pas mettre en œuvre ce seul scénario possible sans faire démissionner Vaimois pour pouvoir récupérer la voix qui était celle d'Isabella Lutovica, qui nous était acquise en fait. Donc, et on aurait eu maintenu la présidence au bénéfice de l'âge. Donc quand on a vu la démission nous arriver hier après-midi, en début d'après-midi, de M. Vaimois, donc on a compris que les choses étaient engagées, bien engagées en tout cas.
Et cette élection est une rupture entre l'UC et l'éveil océanien, mais il y avait eu des alertes, reconnaît Pierre-Chanel Tutugoro.
Ben c'est les alertes, il faut les lire, il faut les entendre. Il y a eu un certain nombre d'alertes qui sont traduites à travers des communiqués. Ils ont fait aussi une lettre ouverte, un certain nombre aussi de communiqués à l'adresse du FLNKS pour libérer le pays et permettre aux Calédoniens de pouvoir se réapprendre à vivre ensemble. Donc c'est comme ça qu'ils avaient appelé les choses. Je pense qu'ils estiment n'avoir pas été entendus parce que dans leur courrier, ils avaient dit qu'ils prendront les responsabilités en cas de non-réponse. Finalement, ils n'ont pas eu de réponse. Les choses sont toujours en cours. Donc il fallait s'attendre. Donc les messages, les alertes, ça arrivait au fur et à mesure. C'est pas un clash comme ça.
Autre réaction du côté indépendantiste, celle de Jean-Pierre Djaïwe, le chef du groupe UNI, qui prend acte du choix des élus du Congrès.
C'est la démocratie qui s'est exprimée. Nous, nous sommes des indépendantistes, nous sommes des démocrates. Nous acceptons ce résultat. La préoccupation majeure de tous les Calédoniens et des élus de cet hémicycle, c'est la situation catastrophique du pays. C'est les 30 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Ça doit être notre priorité aujourd'hui. Et l'ensemble des élus, indépendantistes, non-indépendantistes, c'est la situation catastrophique qui doit être notre priorité dans les semaines, les mois à venir. Et le gouvernement est en train de mettre en place des réformes. Parce que si on demande une aide de l'État, la condition, c'est qu'il y ait des réformes. Et on espère que dans cet hémicycle, eh bien, les réformes qui sont préparées par le gouvernement seront acceptées pour que l'on puisse aller de l'avant.
Voilà donc pour les réactions du côté indépendantiste à cette élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès. Du côté des non-indépendantistes, maintenant pour Virginie Rufna, qui est chef du groupe Rassemblement, ce vote a exprimé la ferme opposition d'une majorité d'élus à la politique de Rocco Amitan.
Nous ne pouvions plus cautionner la présidence du Congrès exercée par Rocco Amitan, qui consistait à faire des accords avec Bakou, l'Azerbaïdjan, sans d'ailleurs consulter le bureau du Congrès, sans qu'aucun des élus de cet hémicycle ne puisse être informé de cet accord. Accord d'ailleurs que nous dénonçons. Nous considérons que ces accords avec l'Azerbaïdjan sont néfastes pour la Nouvelle-Calédonie, sont finalement une forme d'attaque à la France en Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi considéré insupportables les propos du président du Congrès dans le rapport de l'Assemblée nationale où il indiquait que le seuil de tolérance des Blancs avait été atteint. Nous considérons qu'un président d'institution doit représenter tous les Calédoniens et ne pas tenir de tels propos. Et donc finalement, nous avions décidé de mettre un stop à cet exercice de présidence du Congrès par le président Ouamitan. Et au deuxième tour, nous avons effectivement porté nos voix sur Velma Falaeo, qui manifestement exprimé la volonté d'un apaisement dans cette institution, dans la période difficile que nous sommes, période de discussion et période aussi préélectorale d'élections provinciales.
Du côté du groupe loyaliste, Gilles Brial explique qu'il fallait aujourd'hui que les élus prennent leurs responsabilités pour dire stop à la politique du FLNKS après les émeutes organisées par la CCAT.
C'était notre responsabilité de loyaliste, par respect hein, pour tous ces Calédoniens qui ont perdu leur entreprise, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur maison. Pour ces Calédoniens qui sont séquestrés au Mont d'Or ou sur la côte Est, c'était notre responsabilité de tout faire pour que Rocco Amitan, qui fait partie de l'UC, qui a créé la CCAT, qui continue à soutenir la CCAT et qui refuse de condamner les exactions, c'était notre responsabilité de faire en sorte qu'il ne puisse plus présider le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et parler au nom des Calédoniens à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de soutenir Velma Falaeo. Pour nous, ça doit être la première étape de la reconstruction. C'est-à-dire qu'on souhaite aujourd'hui que se mette en place au Congrès une majorité de reconstruction, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui veulent reconstruire la Nouvelle-Calédonie, qui condamnent les exactions, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, mais qui œuvrent ensemble pour la reconstruction de ce territoire.
Et puis, dernière réaction, celle de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Pour lui, le vote des élus ce matin a plusieurs significations.
C'est un vote qui a deux significations. Notre vote, en tout cas, a deux significations. D'abord, c'est un vote sanction contre Rocco Amitan, qui a signé, je le rappelle, une convention de coopération interparlementaire avec l'Azerbaïdjan sans en parler au Congrès. Enfin, elle l'a fait signer par Oumera. Et ça, c'est pour nous une dérive très importante et insupportable de l'institution. Mais c'est aussi un vote d'espoir. Parce que je pense qu'il faut que nous sortions de nos tranchées politiques pour construire quelque chose de nouveau. L'État de la Nouvelle-Calédonie l'exige. Donc c'est aussi ça, la signification de ce vote, c'est de se dire maintenant, il est important qu'on se mette bien sûr au chevet des Calédoniens et que l'on crée, on cherche à créer une nouvelle dynamique.
Voilà la réaction de Philippe Dunoyer pour conclure ses réactions à l'issue du vote ce matin des élus du Congrès qui ont donc porté à la présidence Velma Falaeo. Elle a obtenu au deuxième tour de scrutin 28 voix contre 26 au candidat du groupe UCFLNKS et nationaliste Rocco Amitan, le président sortant. C'est évidemment l'information principale de ce journal. Dans un instant, après une page de publicité, on verra ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie. Mais avant cela, notre question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Votre rendez-vous SMS donc sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. La non-participation du PALIKA et de l'UPM au congrès du FLNKS prévu vendredi et samedi peut-elle, selon vous, provoquer l'implosion du FLNKS? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas croire à l'efficacité du plan sauvegarde, refondation, reconstruction présenté par le gouvernement pour rebâtir la Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes. Ils sont 13% à penser que ce plan sera efficace. 11h45, une pause donc avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Alors, 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantages clients. Ça nous fait...
Pas la peine de chercher, Mini a fait le calcul pour vous. 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage. Au total, ça vous donne toutes les bonnes raisons de vous offrir une Mini.
Alors, Mini 3 portes pour le fun, Mini 5 portes pour l'espace ou Mini Countryman pour l'aventure. À vous de choisir la Mini de votre vie en profitant de ces offres limitées avant le 31 août au showroom Mini chez Prestige Motors au 6e kilomètre. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 30 août 2024. Entretien simple 3 ans au 36 000 km, premier terme échu. Garantie 3 ans au 200 000 km, premier terme échu. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les émeutes qui ont touché la ville de Nouméa ont d'importantes conséquences et en premier lieu sur les finances de la commune. Lors du conseil municipal réuni hier soir, les élus ont adopté la délibération modificative numéro 1 du budget principal et des budgets annexes. Le budget primitif 2024 est évidemment revu à la baisse de 3 milliards. Le maire de la commune, Sonia Lagarde, explique qu'il s'agit de s'adapter au mieux à ce qu'elle qualifie d'impasse budgétaire.
Pour être très précise, la Nouvelle-Calédonie doit aujourd'hui à la commune 5,5 milliards. On a eu un autre petit massacre qui est arrivé entre-temps, qui est celui de la diminution du FIC, où là, on a perdu 1,2 milliard. Et aujourd'hui, on doit 2,6 milliards à des entreprises sur des travaux qui ont été faits. Et donc, on est obligé de les payer au compte-gouttes. La situation, c'est qu'on a aujourd'hui à sortir 700 millions par mois pour payer nos 1800 agents. Et donc, on a priorisé le paiement des agents, bien évidemment. Et puis, on paye au compte-gouttes les entreprises, ce qui n'est absolument pas satisfaisant parce qu'on les tire vers le bas. Et sur le plan économique, c'est vraiment extrêmement compliqué.
Et face aux baisses de recettes, les élus ont donc pris des décisions. Un certain nombre de travaux prévus ne pourront pas être effectués. Il a aussi fallu procéder à des ajustements d'organisation dans plusieurs services. Et malheureusement aussi, nous a dit Sonia Lagarde, revoir à la baisse les festivités et les animations prévues pour les fêtes de fin d'année.
C'est la mort dans l'âme que ce soir on a fait passer la résiliation du contrat qu'on avait avec Océania, mais aussi avec Charles Germain. Il n'y aura pas de feu d'artifice le 1er janvier. Il n'y aura pas non plus de féerie de Noël. On va faire la partie qui était faite d'habitude par les services de la mairie, c'est-à-dire l'illumination des arbres. On essaie de maintenir avec des compagnies locales quelques spectacles pour les enfants. Pas sur un mois comme ça se passait avant, mais je crois que les enfants ne sont pas responsables de tout ça et qu'on se doit encore de leur offrir quelque chose et un peu de joie et un peu de magie à Noël. Donc voilà, oui, c'est la mort dans l'âme qu'on est obligé de faire ça parce que des milliers et des milliers de Calédoniens étaient présents sur cette féerie de Noël, sur le feu d'artifice. Eh bien, cette année, pas de feu d'artifice et une féerie à minima.
Quant au bilan des émeutes sur les structures municipales, il est très élevé. 37 bâtiments municipaux ont été brûlés pour des dégâts évalués à 6 milliards de francs. Le travail se poursuit avec les assurances avant de pouvoir envisager d'éventuelles reconstructions. Une année sur le terrain pour Éloi Goé. Le nouveau président du Sénat coutumier a pris ses fonctions le week-end dernier au siège de l'institution à Nouville. Il succède à Victor Gogny, un mandat qui s'inscrit dans un contexte particulier. Et Éloi Goé compte bien être associé aux discussions pour porter la parole des coutumiers.
On s'est préparé aussi à cette dernière mandature, enfin plutôt à comment la vision en Canac va s'opérer dans l'accord de Nouméa, si on en a biscoin. Donc on a posé, on a juste dit qu'il fallait que l'accord de Nouméa continue et aille jusqu'au bout, quoi. Parce qu'on se retrouve, quoi. L'identité Canac a été portée au centre, des choses ont été faites, mais pas suffisamment, quoi. Donc c'est pour ça qu'on demande à participer sur tout ce qui touche à l'identité Canac, à l'écriture, à la pensée, à la réflexion, à l'écriture du prochain grand accord, s'il y en a un, quoi. Le climat actuel ne s'y prête pas. Et c'est justement, on y travaille, quoi, un climat d'apaisement. Pas d'apaisement pour étouffer quoi que ce soit, mais un apaisement pour rendre les conditions de discussion possibles.
Éloi Goé compte aussi retisser les liens entre les coutumiers et les mairies. Le président du Sénat coutumier était notre invité ce matin et vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet en podcast audio et vidéo. Un large choix de confitures, de saucissons, mais aussi d'ustensiles de cuisine. La 6e édition du Salon Saveurs et Traditions s'est ouverte ce matin à la Chambre des métiers et de l'artisanat et elle va se poursuivre pendant 4 jours, Nicolas Legrand.
Oui, avec un espoir pour les producteurs, relancer leur activité, c'est ce qu'ils attendent, puisque tous ont été impactés par la crise liée aux émeutes. Certains n'avaient plus accès à leurs matières premières ou tout simplement plus de structure de vente. C'est pour beaucoup l'occasion d'écouler leur stock après avoir subi de fortes baisses de recettes.
Alors effectivement, nous au Passeport Gourmand, le salon c'est vraiment important, on y est chaque année, cette année particulièrement puisqu'on propose des tarifs réduits pour pouvoir écouler nos stocks. Chaque année on vend les 4000 exemplaires, cette année suite aux événements on est à peine dans nos clous, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 40% de notre vente habituelle. Donc là au salon on espère vous retrouver nombreux pour pouvoir vous faire découvrir tous nos partenaires.
Cette année on a décidé de faire le salon car on a un gros stock de miel en fait. La saison dernière le maquis minier avait beaucoup donné. Et cette année, donc, les problèmes qu'il y a eu, j'ai 3 gros ruchers à plumes, donc je ne peux pas aller. Donc du coup, là, comme j'ai un gros stock, ben, je vais en profiter pour essayer de vendre ce miel de maquis minier qui est très bon. Donc le miel de maquis, il est là, au stand de Obi-Wan, il n'y a pas de souci.
Et ce salon Saveurs et Traditions est donc ouvert de 9h à 16h, donc ça ce sera jusqu'à samedi, et de 9h à 14h seulement pour le dimanche, et c'est du côté de la Chambre des métiers et de l'artisanat.
11h51 sera du rythme bleu dans un instant, l'essentiel de l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Retrouvez toutes les saveurs et traditions de la Brousse au marché Broussard ce dimanche 1er septembre à Boulary au Mont-d'Or de 6h à 12h. Gourmandise, plantes, boucherie, poissonnerie, artisanat, tout sera présent, même un espace pour les enfants. Alors n'oubliez pas, le marché Broussard, c'est dimanche de 6h à 12h au marché de Boulary. À très bientôt.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Bodin.
Et en métropole, toujours pas de Premier ministre. Les choses ne semblent pas avancer réellement. Après avoir annoncé que le futur locataire de Matignon ne serait pas issu du nouveau Front populaire, Emmanuel Macron a repris ses consultations. Il a reçu cette nuit pour nous les LR, tendance Laurent Wauquiez. Rendez-vous qui apparemment n'a pas fait avancer les choses. Maïhélène Trémollet pour Europe 1.
Les Républicains refusent de saisir la main tendue du gouvernement et appellent Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités sans les rejeter sur les oppositions. C'est le message exprimé par Laurent Wauquiez il y a quelques heures dès sa sortie de l'Élysée.
Cet entretien s'est malheureusement avéré décevant. Aucune position nouvelle, pas de véritable projet pour les Français structuré. Nous avons dit au président de la République qu'il fallait maintenant qu'il nomme enfin un Premier ministre pour sortir de la crise qu'il a lui-même provoquée avec la dissolution. Il n'y a plus aucune raison maintenant de procrastiner.
En clair, le temps presse selon la droite républicaine qui maintient sa ligne d'indépendance mais propose un pacte législatif autour de plusieurs priorités comme la sécurité, la revalorisation du travail ou encore l'immigration. Une proposition considérée insuffisante par le chef de l'État. Reste qu'avec la mise à l'écart de Lucie Castel, la candidate commune de la gauche, et le refus de la droite de s'allier au gouvernement, le cycle des consultations voulu par Emmanuel Macron n'aura pas permis de trouver un remplaçant à Gabriel Attal avant l'ouverture des Jeux Paralympiques.
Le chef de l'État espère toujours trouver une coalition qui irait des bancs socialistes jusqu'à ceux des LR et il espère pour cela que certains députés socialistes vont prendre leur distance avec le nouveau Front populaire. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner, estime l'ancien président de la République François Hollande, redevenu député socialiste.
C'est au président enfin de faire une proposition, c'est-à-dire de nommer un Premier ministre. Et selon le Premier ministre, selon son programme, selon la composition de ce gouvernement, chaque député, chaque groupe politique prendra ses responsabilités. Si c'est simplement la reproduction du gouvernement précédent et la même politique que celle d'Emmanuel Macron, vous comprendrez que ceux qui étaient dans l'opposition hier resteront dans l'opposition.
Et notez que selon un sondage Elab, 56% des Français approuvent Emmanuel Macron et son choix de ne pas nommer Lucie Castet à Matignon. En revanche, ils sont près d'1 sur 2 à soutenir l'éventuelle procédure en destitution à l'encontre du chef de l'État dont le nouveau Front populaire a brandi la menace. L'actualité en métropole, c'est aussi la très vive émotion à la suite du décès de l'adjudant Éric Comines, tué par un chauffard qui a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Le chauffard, un Cap-Verdien de 39 ans, déjà connu des services de police, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Plusieurs cérémonies en hommage aux gendarmes décédés ont eu lieu, notamment à Mandelieu, le lieu de son affectation. Cérémonie au cours de laquelle sa veuve, Harmonie Comines, a prononcé des mots très forts.
Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Comment, pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier ? Déferlement immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors, plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre, on a pris la perpétuité.
Et ce drame illustre une idéologie anti-prison qu'il faut absolument changer car elle est contre-productive, estime le secrétaire national du syndicat Unité Police, Jean-Christophe Couvy.
D'un côté, on durcit la législation, quelque part, puisque là, par exemple, sur le refus d'obtempérer, il y a eu une réforme qui a été faite. Et de l'autre côté, on fait un aménagement de peine. C'est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, voilà, on va muscler le jeu, on sait très bien qu'on a un problème. Le législateur s'empare du problème, dormez tranquille français, regardez, on a musclé. Et de l'autre côté, effectivement, on fait une note aussi en disant la prison, c'est l'exception. Il faut trouver des peines alternatives de la prison parce que la prison, ça crée justement de la surdélinquance. Donc, il ne faut pas. Et ben moi, je pense que justement, il faut arrêter l'idéologie anti-prison. La prison, des petites courtes peines doivent être faites dans de très bonnes conditions, par contre, parce que pour l'instant, effectivement, on n'est pas au rendez-vous non plus. Mais en fait, la prison, ça doit vous servir aussi à réfléchir sur vos actes, de pourquoi vous avez fait ça. Vous devez être seul dans une cellule, réfléchir et on doit préparer votre sortie pour ne plus réitérer.
Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité Police, des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Il nous reste à parler sport dans la dernière page de ce journal. Avant de retrouver les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, le sport, ce sera évidemment l'ouverture des Jeux Paralympiques.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Journée portes ouvertes à l'Université de la Nouvelle-Calédonie le samedi 7 septembre de 9h à 15h. Vous envisagez de poursuivre vos études après le bac et souhaitez découvrir ce que l'UNC peut vous offrir? Ne manquez pas notre journée portes ouvertes le samedi 7 septembre de 9h à 15h sur le campus de Nouville. Et en province nord, l'équipe du campus de Baco participera également en présentant les formations universitaires sur son stand au centre commercial Théary de 8h à 13h. Venez nombreux!
Université de la Nouvelle-Calédonie, bâtir, transmettre, rayonner.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport et c'est reparti pour une quinzaine olympique à Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Après les JO, ce sont donc les Jeux Paralympiques qui se sont ouverts ce matin pour nous. La cérémonie s'est déroulée sur la place de la Concorde devant 30 000 spectateurs. 4 000 athlètes handisport sont engagés dans les différentes disciplines de la compétition et ils ont défilé sur les Champs-Élysées. Yann Madec était à leur côté pour Europe 1.
Chacune des 184 délégations qui étaient passées a été ovationnée tout le long des Champs-Élysées.
Le départ athlète était radieux, beaucoup ont pris le temps de s'arrêter pour prendre une photo, faire signer à la foule, même danser avec. Et certains ont joué encore un peu plus avec le public. Par exemple, on a vu deux athlètes espagnols mimer une corrida avec leur drapeau, ou la délégation congolaise organiser une hola avec le public, qui sonne évidemment sous la musique. Tout à l'heure, pendant le défilé, c'était très électro et dansante pour la cérémonie. Et côté spectateur, évidemment, c'était un carton, comme pour Sylvia, qui a dansé avec son fils pendant tout le défilé.
Très bonne ambiance, la même ambiance décontractée que pendant les JO. Les gens sont heureux d'être là, visiblement, quoi, clairement. C'est génial de voir toutes ces nations réunies défiler ensemble, parce que c'est aussi, dans le symbole, c'est assez énorme, quoi.
Un peu plus loin, à côté d'elle, il y avait aussi Inès et son frère, qui étaient vraiment collés aux barrières qui séparaient le public de la parade. Pour eux, c'était important de montrer leur soutien aux sportifs.
Ça fait du bien de voir tous les athlètes, même voilà, ceux qui sont en situation de handicap, être réunis autour de personnes lambda, tous ensemble. C'est une très belle ambiance.
Une très belle ambiance qui, je pense, va rester dans la tête des gens qui étaient là pendant un moment, puisque là, je vois les gens se diriger vers la sortie devant moi, et tout le monde a cet air un petit peu fatigué, mais heureux de fin de concert.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le reste du sport est d'abord du football. Il y aura 4 clubs français en Ligue des Champions cette année. Lille, qui passait par les barrages, rejoint Paris, Monaco et Brest, Nicolas.
Oui, Lille s'est qualifié ce matin pour la Ligue des Champions. Le LOSC a pourtant perdu son match de barrage retour sur la pelouse du Slavia Prague 2-1. Mais sur l'ensemble des deux matchs, ce sont bien les Lillois qui s'imposent 3-2, puisqu'ils l'avaient emporté 2-0 à l'aller. On retiendra aussi les qualifications de l'Étoile Rouge Belgrade, du Slovan Bratislava et du Dynamo Zagreb. Rendez-vous donc demain matin pour le tirage au sort.
Du cyclisme. Mais une victoire irlandaise sur la 11e étape du Tour d'Espagne.
Oui, une étape autour de Padron, remportée donc par Eddie Dunbar. Un rythme effréné avec une échappée de 40 coureurs qui s'est ensuite disloquée. Au général, l'Australien Ben O'Connor est en tête avec 3 minutes 16 d'avance sur Primoz Roglic. Henrik Maas monte sur le podium du classement provisoire à 3 minutes 58.
En tennis, il y a des Français engagés pour le deuxième tour de l'US Open. Arthur Rinderknecht est passé tout près d'un exploit face au Russe Andrei Rublev.
Oui, il avait fait le plus dur, hein, en remportant les deux premiers sets. Mais le Français a craqué face au 6e joueur mondial qui a ensuite déroulé en remportant les 3 suivants, 6-1, 6-2, 6-1. C'est donc bien le Moscovite qui passe au prochain tour après ses 4 heures de lutte entre les deux hommes. Et c'était une journée difficile, même plus que difficile pour les Français, puisque Arthur Cazot a lui aussi été éliminé en 3-7 par l'Américain Brandon Nakashima. Alexandre Muller, avec sa wildcard, avait hérité d'un gros morceau en la personne d'Alexander Zverev. Il a bien lutté mais n'a rien pu faire contre l'Allemand et perd donc en 3-7. Hugo Humbert a lui aussi été éliminé par l'Argentin Comesana en 4-7. Et puis chez les femmes, Diane Parry a été sèchement battue par les Chinoises Yafan Wang, 6-0, 6-4. Quant à Clara Burel, elle a chuté contre la Bulgare Victoria Azarenka, 6-1, 6-4.
C'est la fin de ce journal. Dans un instant, on se retrouve pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Quelle est la situation des bailleurs sociaux? Quels sont les défis qui sont devant eux? On en parle avec nos 3 invités dans un petit instant.